Alors, bonjour à toutes et tous. Bonjour. C'est un vrai plaisir pour moi de reprendre le fil rouge. Pardon à celles et ceux dont je ne suis pas capable de retrouver le nom, et quelquefois dont je reconnais à peine le visage. Et puis, vous ne le répéterez pas, je compte sur vous, mais ça ne s'arrange pas, je trouve. Alors, on raconte, même si personne n'est obligé d'y croire, on raconte depuis quelque 3000 ans et plus, que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il lui offrit alors de vivre dans un merveilleux jardin, un Éden paradisiaque, comme vous n'aurez sans doute jamais les moyens de vous en offrir. Tout se passait bien, et pourtant, l'homme, Adam, trouva quelque plaisir à la compagnie d'Ève, charmante compagne qui partageait avec lui le jardin. Ils se retrouvèrent un jour sous un arbre, l'arbre de la science du bien et du mal, dont il était interdit de consommer les fruits sous peine d'en mourir. Or, je cite Genèse 2, 25, « Or, tous deux étaient nus, et ils n'en tiraient pas de honte l'un devant l'autre. » C'était sans compter avec le serpent. Il s'adresse à la femme et lui dit « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir et désirable pour acquérir l'entendement, je cite toujours. Elle prit de son fruit et mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Je vous passe le récit de la suite, vous la connaissez. De là découle la condition humaine. Les femmes enfantent dans la douleur, et les hommes ne gagnent leur pain qu'à la sueur de leur front. Tout cela jusqu'à ce que l'un et l'autre retournent à la terre, puisque tu es glaise et que tu retourneras à la glaise. Quelle honte ! Non mais je te dis pas la honte, et je ne vous raconte pas la suite. Ils eurent deux fils, Caïn et Abel. Que croyez-vous qu'il arriva ? Caïn tua Abel. Elle est belle, la famille. Je te dis pas la honte. Alors, Caïn s'en va pour éviter d'être confronté à son châtiment. Souvenez-vous, Victor Hugo, je ne peux pas me retenir, lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au pied d'une montagne en une grande plaine. Sa femme, fatiguée, et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons. » Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, dit-il avec un tremblement. » Alors il dit « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre, un homme solitaire. Rien ne me verra plus. » Je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse, et Caïn dit, c'est bien. Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. À ce point de l'histoire, vous vous demandez peut-être où je veux en venir. À ceci tout simplement. Le sentiment de honte fait partie de notre culture, plus sans doute que nous n'en avons conscience. Chacun à notre manière, nous avons sans doute appris à avoir honte, comme si ce sentiment portait en lui la conscience des fautes, la noblesse du regret et l'humilité de la demande de pardon. La conscience des fautes, mais de quelle faute ? Il y aurait donc faute à être nu, c'est-à-dire à être homme ou femme, à le savoir et à le vivre. La condition humaine serait donc en elle-même potentiellement honteuse et la conscience de cette honte constituerait donc la base de la restauration de la dignité de chacun. Décidément, je ne vous dis pas la honte. D'autant que les circonstances particulières de la vie, ces circonstances particulières vont venir apaiser ou attiser ce sentiment de honte, la précarité, la pauvreté, les difficultés budgétaires, le surendettement, quelles qu'en soient les causes, mettent à mal les personnes dans leur vie familiale, relationnelle, sociale, mais aussi dans la sphère intime du rapport à soi-même. C'est alors l'image de soi qui se trouve atteinte, l'estime de soi se trouve dégradée, indicible honte de celle ou de celui qui éprouve ce sentiment de mésestime de soi jusqu'à avoir honte de soi devant les autres et à ses propres yeux. Je ne te dis pas la honte, non, je ne saurais la dire, elle est trop douloureuse, ses composantes sont multiples, complexes, j'ai honte, tellement honte, qu'il m'arrive d'avoir honte de ma honte. Comment accompagner l'autre pour qu'il puisse quitter cette représentation négative de soi? Comment être sûr que nos actions professionnelles ne viennent jamais renforcer la honte ressentie par la personne aidée? Comment être sûr que la protection dans laquelle nous tenons les familles auprès de qui nous intervenons ne s'opère jamais au mépris de leur dignité? Que faire de nos propres ressentis au sujet de l'autre ou de la situation qu'il vit et qui parfois nous pousse nous-mêmes au bord du dégoût physique ou psychologique et affectif? Comment rester capable, en toutes circonstances, de reconnaître à l'autre la dignité qu'il lui arrive de ne plus se reconnaître à lui-même, dignité qui pourtant le fait, homme ou femme, irrémédiablement? Comment deviendrait-il citoyen sans restaurer une image de soi suffisamment bonne pour se reconnaître digne et ainsi pleinement capable de faire société, lui, les siens, ses enfants, etc. Je ne te dis pas la honte, étrange et dérangeante manière de formuler pour nous, travailleurs sociaux de toutes sortes, le défi que nous avons à relever pour et avec les familles que nous accompagnons. Je ne te dis pas la honte. Une question. A-t-on les mots pour dire la honte? Quel est ce mot? D'où nous vient-il? De quoi est-il porteur? Et comment nous fait-il penser?